y a dans les plateformes dites de métavers, comme Roblox, Fortnite, The Sandbox, Minecraft, ce genre de jeux vidéo, et le comparer avec les transactions financières provenant des jeux vidéo dits traditionnels. Donc j'essaie de comprendre en fait si les métavers ils font plus appel à l'IA que les autres entreprises de jeux vidéo traditionnels. La réponse, on va le voir, c'est oui. Et pourquoi ils le font ? Et on va voir qu'il y a une raison très singulière au métavers, vraiment infrastructurelle, presque ontologique, qui explique pourquoi il y a cette sorte d'incitation plus grande chez les métavers ou chez les proto-métavers à faire recours à l'IA, plutôt que les acteurs des jeux vidéo traditionnels. Donc il y a donc en fait trois enjeux principaux dans cette recherche. Le premier, c'est que quand j'évoque le métavers, je parle ici du métavers en construction, le métavers en train de se faire, et pas simplement de ses représentations, avec des frontières d'ailleurs, Gersio l'a bien montré, qui sont plus ou moins floues. Et donc en fait le défi d'une approche empirique, c'est d'abord très concrètement de distinguer ce qui relève du métavers de ce qui n'en relève pas. Ça paraît simple dit comme ça, mais en fait il n'y a pas de travail de systématisation de cette double catégorisation qui a été faite dans la littérature. Et la première étape, c'est donc de systématiser cette distinction entre métavers et non-métavers dans le secteur du jeu vidéo, vraiment en regardant les entreprises, à partir de la plateforme Crunchbase. Donc tout ça, c'est pour en fait essayer de comparer l'adoption de l'IA entre métavers et jeux vidéo traditionnels, parce que dans le fond, c'est pas très intéressant de savoir si les métavers ou les proto-métavers font appel à l'IA, parce que ça peut être une tendance en fait générale au secteur des jeux vidéo. Ce qui est intéressant, c'est de voir s'ils font appel à l'IA différemment des autres jeux vidéo, et ensuite d'essayer de comprendre pourquoi ils le font. Et donc le troisième enjeu de cette recherche, c'est d'expliquer avec un cadre théorique pourquoi la singularité des métavers rend l'usage de l'IA beaucoup plus intéressante pour eux que pour les jeux vidéo traditionnels. Quel type d'intelligence artificielle pour quel type d'usage spécifiquement, et donc pourquoi les entrepreneurs du métavers sont davantage incités à mener une politique d'innovation active, voire agressive, on va le voir, par rapport à l'intelligence artificielle, davantage que les autres. Donc voilà, c'est ces trois grandes étapes-là qui constituent le programme de ma recherche et que je vais essayer de décrire ici. Donc la première étape, c'est donc de définir le métavers et d'essayer d'en tirer un processus de distinction des entreprises pour distinguer le métavers du non-métavers et d'essayer d'automatiser cette distinction. Donc vous l'aurez compris avec l'intervention de Gersio, il n'y a pas de définition claire du métavers, il n'y a pas d'article académique qui fait référence ou qui fait autorité sur le sujet. Il n'y a pas non plus d'article académique qui permet dans le fond de le circonscrire de façon suffisante pour en dériver une analyse. Et donc pour analyser l'innovation et les singularités économiques du métavers, il faut prendre parti. Et ce n'est pas très habituel en fait dans le milieu de la recherche académique, parce que traditionnellement, sur un sujet donné, il y a déjà beaucoup d'auteurs qui ont travaillé, et en fait on peut dériver une analyse à partir des concepts qui ont déjà été développés par d'autres auteurs. Et là, il faut prendre parti en fait quand on parle du métavers, il faut prendre position. Donc ce qui est encore plus difficile, c'est qu'il y a des définitions concurrentielles du métavers qui recoupent des enjeux industriels. Donc, par exemple, Meta il aura tout intérêt à diffuser l'idée selon laquelle le métavers, c'est nécessairement un espace ultra technologique et immersif qui est appuyé sur la VR, alors qu'une autre entreprise comme Niantic pourra essayer de faire passer le métavers comme un espace virtuel appuyé sur la réalité augmentée, en expliquant que la VR, c'est dystopique, etc. Et à rebours de toutes ces perspectives hyper technologiques, il y a d'autres auteurs qui s'intéressent au métavers appuyé sur la blockchain. Et c'est pas forcément surprenant dans la mesure où en fait c'est à travers le secteur des crypto-monnaies, de la blockchain, des NFT que le terme de métavers il a émergé dans l'espace public autour de 2018 avant d'être réapproprié par Meta. Et en fait ça décrit une sorte d'espace virtuel, de monde virtuel potentiellement plus ouvert que les autres, avec plus de liberté pour les utilisateurs relativement aux règles qui les gouvernent, qui les régissent, et qui accueille des institutions économiques et sociales un peu plus riches, avec par exemple des libertés économiques, de marché, des transactions avec des crypto-monnaies, des NFT, ce genre de choses, qui sont un peu plus développées que dans des mondes virtuels plus traditionnels. Et donc au sein de ces définitions contradictoires, et dans la cartographie qui a été dressée par Gersio, je me situe dans une approche spécifique, dans les quatre clusters qu'il a essayé d'identifier, c'est celui des jeux vidéo, parce que dans le fond, je pense que c'est dans le monde des jeux vidéo que s'incarnent aujourd'hui les métavers contemporains, qu'il s'agisse de Roblox, de Fortnite, de Second Life, Minecraft, Sandbox, ce genre de jeux vidéo. Et en fait, ce sont ces jeux vidéo-là qui possèdent les caractéristiques de ce que l'on peut attendre d'un métavers, à savoir la persistance, l'hypersocialisation, l'intermédiation par des avatars, ce genre d'éléments. Mais le problème, c'est que considérer en fait que ces plateformes-là, Roblox, Minecraft, sont des métavers, c'est aussi rejeter l'idée d'un métavers ultra technologique un peu décrit à la Ready Player One, qui n'existe pas encore, mais qui attendrait seulement en fait la convergence d'innovations technologiques pour advenir. Et c'est une perspective qui est quand même assez prégnante dans le monde académique et aussi dans l'espace public. Donc pour éviter de prendre ce risque, c'est vrai que j'ai appelé proto-métavers ou antécédents des métavers les jeux vidéo contemporains qui, à travers lesquels du moins s'incarne aujourd'hui le métavers. Pour clarifier mon approche, je vais m'essayer à une petite définition sans prétention du métavers. Donc, en fait, ce serait un monde virtuel persistant où les utilisateurs incarnés par des avatars sont coordonnés par des institutions sociales et économiques proches du monde réel et qui ont vocation à interagir, à jouer et à socialiser. Et là, on voit bien en quoi des jeux comme Roblox ou des MMORPG peuvent aisément s'incarner dans cette définition. Mais à l'inverse, des jeux vidéo dits AAA comme Assassin's Creed, Call of Duty ne vont pas du tout s'inscrire dans cette définition parce que soit ils ne sont pas en ligne, soit s'ils sont en ligne, ils ne sont pas persistants, soit ils sont extrêmement limités dans leur capacité d'interaction, ce genre d'éléments. Donc déjà, cette définition elle est assez excluante et c'est ce qui la rend intéressant. Et en fait, à partir de cette approche, j'ai cherché à dériver un système de classification des entreprises qui permettrait de distinguer les métavers des non-métavers, donc des jeux vidéo traditionnels. Cette classification, en fait, elle est automatique, transparente et réplicable parce qu'elle découle de labels ou de sous-catégories prédéfinies par Crunchbase. Par exemple, les entreprises dites ou qui ont le label MMORPG ou Virtual Worlds vont être catégorisées comme des métavers, alors même que les entreprises de jeux vidéo qui sont simplement catégorisées sous le nom de video games ou console games, mais qui n'ont pas ce terme qui définit la singularité du métavers comme le Virtual Worlds, seront eux catégorisés comme des jeux vidéo traditionnels. Et cette classification, en fait, elle fonctionne assez bien parce qu'il n'y a pas de résultat aberrant, en tout cas, hein, lorsqu'on regarde la classification et qu'on regarde de l'appartenance catégorielle d'entreprises relativement connues et dont on peut définir si elles sont un métavers ou pas un métavers sans risque. Et donc la seconde étape, c'est de penser les liens potentiels entre IA et métavers, ou plutôt en quoi le lien entre IA et métavers diffère du lien entre IA et jeux vidéo traditionnels. Donc je pense qu'il peut être utile de parler en quelques secondes de l'histoire de l'IA dans le secteur des jeux vidéo, dans la mesure où ce terme, en fait, dans ce secteur particulier, il peut prêter à confusion parce qu'il a plusieurs connotations. Et ça fait très longtemps, en fait, qu'on parle d'intelligence artificielle dans le monde du jeu vidéo, hein. Il y a des articles académiques, des articles de recherche qui datent des années 2000. Et c'est notamment parce que entre la façon dont on pense l'IA dans les années 2000-2010 et la façon dont on pense l'IA aujourd'hui avec l'évolution du deep learning depuis 2017-2018, en fait, on ne définit pas l'IA du tout de la même façon. Et dans le langage vernaculaire au sein des communautés de jeux vidéo, de joueurs et de développeurs de jeux vidéo, à l'époque, l'IA, en fait, ça fait référence à ce qu'on appelle des personnages non-joueurs, donc des non-playable characters, ce qu'on va appeler des NPC. Et pour quiconque a déjà joué à un jeu vidéo, sont assez cruciaux pour l'immersion du joueur, et pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est, en fait, c'est des personnages non-joueurs avec lesquels on est amené à interagir, qu'il s'agisse d'alliés ou d'ennemis. Ils peuplent le monde virtuel, ils donnent du relief, et parfois même, ils donnent à ce monde virtuel sa raison d'être lorsqu'ils sont un aspect important du jeu vidéo. Et donc, il y a deux champs de recherche dans la littérature qui lient intelligence artificielle et jeux vidéo. Le premier, il s'intéresse à la performance des intelligences artificielles, qui aujourd'hui battent les humains dans à peu près tous les jeux un peu structurés comme StarCraft, Dota, évidemment les échecs et le jeu de Go. Et ça s'explique parce que le jeu vidéo, c'était dans le fond un terrain d'expérimentation et de mesure d'efficacité des IA. C'était hyper pratique en fait de mesurer l'efficacité des IA dans ce genre de, sur ce type de terrain. Et il y a une seconde littérature un peu plus intéressante, enfin en tout cas qui nous intéresse un peu plus, et qui renvoie pas à un objectif de performance des NPC, donc de ces personnages non-joueurs, mais qui renvoie à un objectif de crédibilité comportementale. En fait, la littérature, elle essaie de penser des algorithmes optimaux pour que les NPC se déplacent de façon réaliste, donc qu'ils ne se prennent pas un mur, par exemple, pour qu'ils s'adaptent à leur environnement, pour qu'ils réagissent de façon réaliste lorsqu'ils nous voient, lorsqu'ils ne nous voient pas, lorsqu'on s'approche d'eux, qu'on s'éloigne ou qu'on interagit avec eux. Et ça, en fait, c'est une littérature qui traite très majoritairement d'un seul champ d'application de l'intelligence artificielle, celui des NPC. Et les développements récents de l'IA, notamment de deep learning depuis 2017-2018, en fait, ils font émerger un approfondissement du réalisme des NPC, mais aussi un autre champ qui va beaucoup plus nous intéresser ici. Donc, d'abord, concernant les NPC, c'est pas quelque chose de véritablement démocratisé, mais il y a déjà des pistes intéressantes entre l'usage de l'IA et l'augmentation du réalisme de ces personnages non-joueurs. Par exemple, il y a des développeurs bénévoles qui ont proposé un mode, donc c'est une altération autorisée du code source sur un jeu vidéo, qui permet d'avoir une conversation avec un NPC.